Le thème du message, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. Voilà ce que la Bible nous dit. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Donc voilà le commencement, les origines. Là où tout a commencé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le Délium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc ça c'est vers l'Irak. Le nom du troisième est Idekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Ici, la Bible nous parle un peu des origines, de comment est-ce que la terre a été créée, de comment est-ce que l'homme a été créé, à quel moment l'homme a été créé, à quel moment la terre a été créée, et un peu comment Dieu était derrière toute cette création. Dieu a fait beaucoup de choses. D'abord, il a créé l'homme. En formant un corps avec la terre et en soufflant dans ses narines, la Bible dit, un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Ensuite, Dieu choisit un endroit qu'il appelle maintenant, qui devient un peu le lieu d'habitation de l'homme. Et cet endroit-là, c'est le jardin, c'est Éden. Amen. Tu vois, quand tu vois Éden, tu vois là, la volonté de Dieu que l'homme vive dans un endroit féerique et un endroit, excusez-moi le terme féerique, mais un endroit paradisiaque. Alléluia. Dieu en créant Éden, il a mis tout ce dont l'homme avait besoin et tout ce qu'il veut que l'homme ait. Éden était un endroit riche, un endroit prospère, un endroit béni, un endroit calme, un endroit paisible. C'est à Éden que Dieu veut que l'homme habite. Alléluia. Ensuite, Dieu crée à l'homme une activité. Il dit, voilà, tu vas le cultiver et tu vas le garder. Donc Dieu veut que l'homme ait un travail, un lieu d'habitation, qu'il ait un travail. Amen. Donc il dit à l'homme, voilà, tu vas le cultiver, tu vas le garder. Et Dieu donne également à l'homme la richesse. Amen. Parce qu'au verset 12, la Bible dit, l'or de ce pays est pur. Donc, il y a l'or de la zone où l'homme habitait avait une particularité. C'est que cet or-là était pur. Tu sais qu'il y a plusieurs sortes d'or. Il y a plusieurs catégories d'or. Il y a or plaqué, il y a l'or 14 carats, 10 carats, 11 carats, 18 carats, 22 carats. Mais la Bible dit que l'or que Dieu a mis à Éden était de l'or pur. Donc Dieu voulait également que l'homme ait tout ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et en plus, Dieu lui demande aussi l'obéissance. Il lui dit, voilà, je plante plein d'arbres dans la maison. Et tous ces arbres-là, Tu peux les manger, sauf un seul arbre que tu ne peux pas toucher. Pourquoi est-ce que Dieu lui demande à l'homme de ne pas faire ça? Parce que Dieu voulait voir si l'homme pouvait marcher avec Dieu dans l'obéissance. Alléluia. Un homme de Dieu disait que cet acte-là même, déjà, Dieu n'a pas appelé l'arbre-là la dîme, mais en fait, en quelque sorte, l'arbre-là, c'est la dîme. Alléluia. À chaque fois que tu dépenses ta dîme, la dîme du Seigneur, parce que ce n'est pas ta dîme, à chaque fois que tu détournes la dîme du Seigneur, tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu dit, tu peux dépenser tout l'argent que tu veux, mais les 10% de ton revenu, n'y touche pas, apporte-les dans ma maison. Est-ce que tu comprends? L'homme dans le jardin d'Éden avait un interdit. L'homme aujourd'hui aussi a des interdits. Et l'interdit de Dieu, c'est qu'une partie de tes revenus doit venir dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de personnes se plaignent en disant, mais pourquoi Adam est allé manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est à cause de lui qu'on souffre. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu manges toi-même le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est à cause de ça que tu souffres. Parce que Dieu, dans la nature, nous a montré des choses. Vous voyez, lorsque vous prenez un fruit et que vous le mangez, vous mangez par exemple une mangue ou bien une orange, ou bien de la papaye, vous ne pouvez pas manger le fruit et la semence du fruit. Ce n'est pas possible. Il y a une partie de ce fruit-là qui doit retourner dans le sol pour pouvoir produire. Quand tu manges la mangue, si tu manges le noyau de la mangue, tu vas avoir une diarrhée. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas manger la mangue, manger la peau, manger le noyau. Donc, il y a une partie de la mangue là qui est interdite. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, tu ne mangeras pas de cela. Tu ne mangeras pas de cela. Pourquoi? Parce que c'est la semence. Donc, quand tu t'amuses à manger la semence, quelque chose se produit dans ta vie. Quelque chose se produit dans ton corps. Là, il ne devait pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, sinon il allait mourir spirituellement. Là, tu ne dois pas manger le noyau de la mangue, sinon tu vas avoir la diarrhée physiquement. Et là, tu ne dois pas manger aussi les 10% qui appartiennent à l'Éternel, sinon tu vas sécher financièrement. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Donc, dès le jardin d'Éden, déjà, il y avait la dîme. Alléluia. Vous savez, ils ont demandé un jour à un pasteur. Il y a un homme de Dieu qui est venu voir le pasteur. Il dit, ah, monsieur, vraiment, vous avez combien de membres dans votre église? Il dit, il a 150 membres. Il dit, mais les 150 membres-là, ils payent la dîme? Il dit, oui, eux tous. Il dit, ah bon? Mais comment vous faites ça? Mais ça, c'est extraordinaire. 150 personnes qui payent la dîme. Il dit, non. Il y en a 50 qui viennent la donner volontairement. Les 100 autres, Dieu lui-même se charge de percevoir ça. Donc, lui, il estime que les 150 membres apportent leur dîme à l'Éternel. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, tu vas l'apporter. Amen. On ne le sait pas. C'est comme les factures. Quand tu ne payes pas ta facture de CIE, tu sais qu'on va te couper l'électricité. Quand tu ne payes pas ta facture d'eau, tu sais qu'on va te couper l'eau. Quand tu n'apportes pas la dîme à l'Éternel, mon frère, ce n'est pas sur le champ. Mais tu vas sentir que, je vais vous dire quelque chose, hein, que les gens qui sont fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes connaissent également la prospérité spirituelle. Parce que c'est une relation d'obéissance avec Dieu. Tant que, dès que tu désobéis, automatiquement tu te coupes de l'Éternel, tu te coupes de Dieu. Comment est-ce que tu veux prier, recevoir la direction alors que tu sais ce que Dieu te demande de faire et que tu ne le fais pas? Alléluia. Apporter la dîme à l'Éternel, c'est pas seulement, n'apporte pas seulement des bénédictions matérielles. Ça n'ouvre pas seulement les écluses des cieux, mais ça te maintient dans une relation d'obéissance avec Dieu. Maintenant, Dieu m'a montré une autre chose. Dieu m'a dit, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Alléluia. L'amour n'est pas un sentiment. Parce que si l'amour est un sentiment, quand tu as envie d'aimer, tu aimes. Quand tu n'as pas envie d'aimer, tu n'aimes pas. Parce que c'est basé sur les sentiments. Là. Or, les sentiments, ça change. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour est constant. L'amour, ce sont des actes que tu poses. Que tu sentes, que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Quelqu'un qui aime, par exemple, et ça c'est très important pour nos couples et pour nos mariages. Quand tu aimes ta femme, mon frère, ou bien quand la femme aime son mari, Elle ne lui dit pas bonjour parce qu'elle a envie de lui dire bonjour ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. Tu sais que tu as un mari, le matin qu'elle se réveille, tu dois lui dire bonjour chérie, comment ça va? Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne rentres pas dans la maison et puis tu ne parles pas à la personne parce que tu as eu une mauvaise journée. Non. L'amour, ce n'est pas basé sur les sentiments. Si c'était les sentiments, Jésus, au dernier moment, il allait nous laisser, il allait partir. Il a dit, mais ces gars-là, c'est eux-mêmes qui criaient Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Et puis aujourd'hui, ils crient, crucifiez-le. Au moment même où on dit crucifiez-le, il dit, bon, c'est bon, tout s'arrête maintenant. Il claque des doigts, les anges viennent le chercher, s'en vont au ciel. L'affaire est terminée. Ceux qui criaient, crucifiez-le, ils vont voir la terre s'ouvrir, ils vont descendre vivants en enfer. Mais Christ a accepté d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? À cause de l'amour. Et l'amour ne change pas. Alléluia. Arrêtez de penser que l'amour est un sentiment. Mais c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de lui faire un bisou. Demain, non, si sa tête m'énerve trop, je n'ai même pas envie de lui parler. Et tu vois que dans la maison, un moment c'est la tension, un moment ça va, un moment c'est la tension. Les enfants eux-mêmes, ils sont devant, ils ne savent même pas comment réagir parce qu'à tout moment, il peut y avoir des problèmes. Donc la dîme, c'est la même chose. C'est un acte d'amour. Parce que tu aimes Dieu et parce que tu aimes son œuvre. Que ton compte en banque soit rempli ou que ton compte en banque soit vide. Est-ce que tu comprends? Dès que tu reçois ta sorte, tu la portes à l'Éternel, que tu aies envie de le faire ou que tu n'aies pas envie de le faire. Il y a des gens qui disent, non, l'homme de Dieu là, vraiment, il m'a énervé aujourd'hui, donc je n'apporte pas ma dîme. Mon frère, ça ce n'est pas de l'amour. C'est pas parce que tu n'apportes pas à l'homme de Dieu, tu l'apportes à Dieu pour que son œuvre puisse continuer d'avancer. Alléluia. Parce que sinon, quand tu fais ça aussi, Dieu va te bénir quand il a envie de te bénir. Quand il n'a pas envie, il ne te bénit pas. Amen. On le fait par amour et par obéissance. Donc, même dans le jardin d'Éden, il y avait des obligations que l'homme devait accomplir. Et il a failli à cela. Mais vous voyez, Dieu a dit quelque chose de très important que je veux relever aujourd'hui. La Bible dit, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Je vais m'arrêter sur la première partie. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Mon frère, quand Dieu a dit ça, l'homme vivait dans le jardin d'Éden. Donc, il avait tout le luxe et tout le matériel autour de lui. L'homme avait une relation privilégiée avec le Seigneur. Dieu descendait et marchait avec l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, il avait une communion avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est au milieu de la communion avec Dieu, au milieu de l'abondance matérielle et financière, au milieu du travail, de la stabilité que Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il n'avait pas tout ça. Il avait déjà tout ça et puis Dieu l'a vu. Pendant qu'il était dans l'abondance, pendant qu'il avait une communion avec Dieu, pendant qu'il avait tout. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? La communion avec Dieu ne peut pas remplacer ta femme. Et la communion avec Dieu ne peut pas remplacer ton mari. Est-ce que tu comprends? Puisque c'est dedans que Dieu te voit et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Mais, entre-temps, quelque chose s'est passé. L'homme, effectivement, a eu une compagne qui est sa femme. Mais l'homme a perdu quelque chose. L'homme a perdu sa communion avec Dieu. Amen. L'homme a eu une compagne, sa femme, mais l'homme a perdu sa communion avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Puisqu'il a mangé, il a désobéi à Dieu. Et le fruit de cette désobéissance-là à Dieu a provoqué donc une séparation entre lui et Dieu. Il a été chassé du jardin d'Éden. Donc l'homme est parti maintenant tout seul. Il est parti avec sa femme, en fait. Parce que c'est par sa femme que le diable est passé pour pouvoir le faire tomber. Ah, ça, c'est la Bible qui le dit, hein, les femmes, c'est clair. Non, il dit, les femmes, c'est un sexe faible. Il faut faire très attention. Amen. Mais il y a quelque chose qui avait été enlevé. Parce que dans le livre d'Ecclésias, au chapitre 4, verset 12, il y a un verset qui dit que la corde à trois fils ne se rompt pas. Alléluia. La corde à trois fils ne se rompt pas. Les trois fils, c'est qui? C'est toi, ton conjoint et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi je parle du Saint-Esprit aujourd'hui? C'est toi, ton conjoint et le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, Jésus après a dit quelque chose. Il a dit, les gars, il faut que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, celui qui a été annoncé, l'Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Et mais il est préférable pour vous que je m'en aille, pour que lui il puisse venir et il sera avec vous. Alléluia. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Même dans ta vie spirituelle, il n'est pas bon que tu sois seul. Dans ta marche avec le Seigneur, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu as besoin d'un conjoint ou d'une conjointe et tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle de la corde à trois fils. Un homme qui marche avec l'Esprit de Dieu et avec son conjoint ou sa conjointe. Alléluia. Ou une femme. Vers une direction, rien ne peut les empêcher d'atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Alléluia. Et rien ne peut les empêcher d'avancer. Si les hommes n'avancent pas, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur femme pour certains. La Bible dit que ça constitue un obstacle à ta prière. Si les hommes n'avancent pas, c'est parce qu'ils attristent aussi le Saint-Esprit. C'est vrai, tu peux t'entendre avec ta femme, mais si tu ne t'entends pas avec l'Esprit de Dieu, mon frère, ça pose également un problème. Prends ta Bible dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 4. Tu vas voir quelque chose. Je vais te montrer pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est également ton compagnon. Verset 4. La Bible dit ceci. J'attends que vous trouviez. C'est dans le Nouveau Testament. Jacques. Il faut dépasser tout là. Colossiens, Corinthiens, Romains. Avancez seulement. Vous arrivez jusqu'à Hébreux. Juste après Hébreux, maintenant, vous allez trouver Jacques. Ça va? Jacques, maintenant, chapitre 4. Donc, vous tournez. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Jusqu'à présent, les personnes n'ont pas encore trouvé. Ok. Vous avez trouvé Jacques, chapitre 4, maintenant verset 4. Alléluia. Ça va aller, bientôt. En 30 secondes, les chrétiens vont pouvoir trouver les passages. Amen. Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. La Bible dit que lorsque tu veux plaire au monde, tu es un adultère. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu peux commettre l'adultère envers le Saint-Esprit. L'adultère envers le Saint-Esprit, c'est lorsque tu cherches à marcher par un autre esprit que par l'Esprit Saint. Quand tu veux plaire au monde, à ce moment-là, Dieu t'appelle adultère. Pas parce que tu as commis l'adultère contre ta femme, mais tu as commis l'adultère contre l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, tu es marié avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est plus que le mariage. Tu es scellé avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Scellé, ça veut dire que vous êtes... Tu es joint avec l'Esprit de Dieu. Tu es scellé avec l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que je peux mieux expliquer le mot scellé. Lorsque tu envoies une lettre, tu scelles cette lettre-là. Ça veut dire que lorsque tu mets un peu de cire sur la lettre et puis tu mets le cachet. Quand tu fais ça, ça veut dire que personne, si ce n'est le destinataire, n'a le droit d'ouvrir cette enveloppe-là. Et une fois que c'est ouvert, c'est cassé en même temps, le sceau est cassé, la lettre perd de son authenticité. Est-ce que tu comprends? On peut t'accuser d'avoir falsifié le contenu. Donc, sceller quelque chose, c'est garantir cette chose-là, sécuriser cette chose-là. Dis également de qui vient cette chose-là. Parce que lorsque tu scelles une lettre, tu scelles ça avec ton sceau. Donc, en voyant la lettre, on sait que cette lettre-là vient d'un tel. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a scellés avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas briser ton mariage et tu ne peux pas briser ta relation avec le Saint-Esprit. En le faisant, tu te garantis l'enfer. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut divorcer n'a qu'à, il n'a qu'il divorce, mais qu'il ne se remarie pas. Parce qu'en le faisant, il commet un adultère. Mais ce n'est pas un adultère, tu penses que c'est un adultère et puis non. C'est, il commet, ça veut dire qu'il vit dans l'adultère avec cette nouvelle femme qui s'est prise. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il a brisé une alliance. Il a brisé un lien qu'il a contracté, un contrat qu'il a passé avec Dieu. Alléluia. Il doit tout faire pour éviter que cela arrive. Que ce soit envers le Saint-Esprit, puisque la Bible parle d'adultère, tu peux commettre un adultère spirituel. Si tu cherches à plaire aux gens du monde, c'est un adultère, tu te souilles. Il y a des gens qui sont devant des décisions, ils préfèrent, c'est-à-dire qu'en parlant de dîmes encore, hein, vous allez dire que le pasteur parle trop de dîmes. Là, il voit sa dîme, il dit, ah, ça là, ça peut me payer une chemise, hein. Ou bien ça peut me payer une bouteille de parfum. Si je paye une bouteille de parfum, les gens vont trouver que je sens bon, je vais me faire des amis. Mais si j'envoie ça à l'église, qui va savoir même que j'ai donné ça? Donc tu prends la dîme du Seigneur et tu vas acheter une bouteille de parfum. Ou bien tu vas payer l'entrée d'un concert. Ou bien tu vas t'acheter une paire de chaussures. Tu es en train de commettre l'adultère. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que tu préfères plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Il y a deux seules personnes à qui tu dois plaire. Tu sais c'est qui? Hein? Ton conjoint et puis le Saint-Esprit, c'est tout. Quand tu cherches à plaire à une autre femme que ta femme, tu commets l'adultère. Quand une femme cherche à plaire à un autre homme que son mari, elle commet l'adultère. La Bible dit, si tu regardes même une femme avec le désir même d'aller avec elle, déjà tu as commis l'adultère. Quand tu cherches dans ton comportement à plaire à un homme au lieu de plaire à Dieu, tu commets l'adultère. Dieu peut te dire, il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quelqu'un vient te demander un service, Dieu te dit de dire non. Mais tu dis oui parce que tu veux plaire à la personne. La personne vient te demander 10 000 francs, Dieu te dit ne lui donne pas. Tu dis non, je vais lui donner, non, ça fait quoi? Tu lui donnes. Tu viens de commettre l'adultère. Parce que tu cherches à plaire à un homme au lieu de plaire à Dieu. Alléluia. Il le dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est avec jalousie. La Bible dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc Dieu a fait l'esprit habiter en nous. Dieu l'a managé. Saint-Esprit, pardon, va habiter dans les hommes. Saint-Esprit dit non, ils sont trop méchants. Dieu dit non, c'est pas grave. Ils ont besoin de toi. Sans toi, ils ne peuvent pas traverser ce monde-là. Le Saint-Esprit dit, mais tu sais comment je suis doux. Tu sais que moi, on peut me frustrer facilement. Si je vais dans ce cœur-là, mais ils vont me faire souffrir. Dieu dit, non, fais ça à cause de moi. Pardon, Esprit de Dieu. Va avec eux. La Bible dit, il a fait habiter en nous. Il a parlé à l'Esprit. Il a demandé à l'Esprit de venir habiter en nous. Sinon, ce n'est pas un endroit que le Saint-Esprit veut. Je sais pas. C'est pas cet endroit-là. Si tu devais choisir, là, mon frère, il y a trop d'endroits où l'Esprit de Dieu pouvait aller habiter que de venir habiter en nous. Des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui trichent, des gens qui se cachent pour aller faire des bêtises. Tu penses que tu te caches, mais tu te caches de qui? Il n'est pas dehors, il est en toi. Donc tu prends l'Esprit de Dieu et tu vas faire des choses. Tu prends l'Esprit de Dieu, tu vas poser des actes. Tu prends l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est en toi. Et tu dis non, vraiment, non, la dîme là c'est trop. Faut que je mette un peu de côté. Pourtant il est là. Il voit tout ça. Regarde, je vais te montrer quelque chose sur le Saint-Esprit. Dieu n'aime pas qu'on s'amuse avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est en fait la Pentecôte. C'est bien. Période où l'Esprit de Dieu est venu. On s'imagine que le Saint-Esprit, c'est un feu. Ce n'est pas un feu. On s'imagine que le Saint-Esprit, c'est une colombe. Ce n'est pas une colombe. Et donc, on s'imagine que le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Alléluia. Il est descendu comme une colombe. Il est descendu comme une flamme. Mais il n'est pas une flamme, il n'est pas un vent, il n'est pas une colombe. Il est une personne. Alléluia. Il est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Alléluia. Il peut tout, il est partout à la fois et il sait tout. Amen. Il est en toi. Mais il est plus grand que toi. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que le diable. Alléluia. Sa présence en toi te donne la victoire sur les puissances des ténèbres. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais Dieu n'aime pas qu'on s'amuse avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est la personne la plus sensible de la Trinité. Il est la personne la plus sensible. Regarde dans Matthieu chapitre 12. Verset 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Relis. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 31. Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que tu comprends? Blasphémer contre le Saint-Esprit, Dieu ne te pardonne pas ça. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, non seulement dans ce siècle-là, on ne le pardonne pas, mais dans le siècle à venir aussi, il ne sera pas pardonné. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont déjà disqualifiés? Les gens, trop facilement, ils mentent sur le Saint-Esprit. Je t'ai dit, devant le Saint-Esprit, je n'ai pas pris ton argent. Oh, il a pris l'argent. C'est-à-dire, le nom du Saint-Esprit, on ne fait pas sortir ça comme ça. Jésus dit, si vous mentez sur moi, on peut vous pardonner. Tu dis, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Mais si tu mens sur l'Esprit, il ne te sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc tu peux blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut faire attention. Hébreux chapitre 10, verset 29. Regardez ce que la Bible dit. Verset 29. Ah, lisons à partir du verset 28. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ça veut dire quoi? Qu'il y a la loi de Moïse. Si tu as violé la loi de Moïse, que deux personnes ou trois personnes viennent témoigner qu'effectivement tu l'as fait, on te lapide, on te tue. Sans miséricorde. Verset 29. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Alléluia. Donc, il dit Moïse seulement là, quand tu violes sa loi, sans miséricorde, on te tue. Maintenant, imagine-toi quel châtiment peut tomber sur celui qui, de manière volontaire, aura outragé le Fils de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est grâce au Fils de Dieu qu'aujourd'hui tu as l'Esprit. Alléluia. C'est parce qu'il est venu sur la terre qu'il est mort à la croix, il a été battu, il a été blessé, il a été frappé, il a été tué, il a été crucifié. À cause de cela, tu peux recevoir l'Esprit aujourd'hui. Donc, il dit, tu outrages quoi? Le nom de Jésus qui est venu sur la terre, son sang qu'il a versé qui te permet aujourd'hui de recevoir l'Esprit, et l'Esprit de la grâce lui-même, tu l'outrages. Quel châtiment tu peux avoir en faisant cela? Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Donc, tu tournes deux pages avant le passage qu'on vient de lire. Verset 4, il dit ceci, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. J'entends les Alléluia. C'est pas tombé. Tu es tombé. Et puis tu pries le Seigneur pour te relever. Quand la Bible se tombait là, ça veut dire que tu as abandonné même le Seigneur. C'est si quand tu pêches, le Saint-Esprit te reprend encore, ça veut dire que mon frère, tu es encore dans la maison du Seigneur. Si quand tu mens, tu as des remords d'avoir menti, tu es encore dans la maison du Seigneur. Si quand tu voles, tu te répands, après tu te sens tellement coupable que tu vas devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai volé, tu es encore dans la maison du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu commences à faire un péché, que le Saint-Esprit te reprend, tu continues, il te reprend, tu continues, il te reprend, tu continues, il te reprend, à un certain moment, il va partir. Il va te laisser. S'il te laisse, pour qu'il revienne, il faut que Jésus-Christ soit crucifié une deuxième fois. Non, tu comprends tout en même temps. Comme il ne va pas revenir encore pour être crucifié, donc le Saint-Esprit est parti, il est parti. Hein? Le Saint-Esprit est parti, il est parti. Hein? Alléluia! Vos amènes là sont lourds. Moi, je ne sais pas à quel moment exactement il s'en va. Mais je sais qu'il peut partir. Alléluia! Donc, tu sais ce que tu fais. Il n'aime pas ça, mais tu continues de le faire. Il peut partir. Tu as ton voisin, il peut partir. Maintenant, il faut lui dire, s'il est parti, il est parti. Alléluia. Donc, fais attention. Fais attention. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Tu peux attrister le Saint-Esprit, tu peux le rendre triste. Et Dieu dit, il ne faut pas l'attrister. Il ne faut pas le rendre triste. Parce que tu as été scellé avec lui. Ça veut dire quoi? Si le jour où quand le jour de la rédemption arrive, Dieu veut voir le sceau intact sur l'enveloppe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Dieu veut voir le sceau intact sur l'enveloppe. La seule chose qui peut garantir que le jour de la rédemption, tu seras sauvé, tu seras ressuscité, tu seras enlevé, c'est la présence du Saint-Esprit en toi, dans ta vie. C'est une personne. Il ne faut pas l'attrister. Quand tu as quelqu'un à côté de toi là, si tu lui parles mal, il va s'attrister. Tu fais des choses qu'il ne veut pas que tu fasses, il va s'attrister. Tu es violente, il va s'attrister. Dans le Saint-Esprit aussi, il est là, il y a des choses qu'il n'aime pas. Si tu le fais, il s'attriste. Il y a des gens, l'Esprit souffre en eux. Saint-Esprit souffre, il est en toi, mais il souffre. Tous les jours, il pleure. Tu es qui, toi, pour faire pleurer l'Esprit de Dieu? Ah, c'est du sérieux, hein? Alléluia. Ah, Seigneur. Moi-même, ça me chicote aussi. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça coupe devant, ça coupe derrière aussi. Alléluia. Et la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile seront jugés plus sévèrement. Amen. Mais ce message-là, ce n'est pas moi-même qui suis en train de le prêcher. Comme tout à l'heure, la sœur chantait. Si je chante, ce n'est pas moi qui chante, c'est Christ qui chante en moi. Si je prêche ce message-là, ce n'est pas J'aime Kakou qui prêche. C'est Jésus qui prêche à travers moi. Alléluia. Vous savez, on dit Pentecôte, Pentecôte. Il faut qu'on sache qui est le Saint-Esprit. Les gens ne savent pas. Ils pensent que le Saint-Esprit, c'est quand tu fais... C'est le Saint-Esprit. Ou bien ils pensent que c'est quand tu roules, on dit c'est le Saint-Esprit. Ou bien on pense que le Saint-Esprit, c'est les miracles. Que le Saint-Esprit, c'est les démonstrations de puissance. L'Esprit de Dieu me dit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu peux blasphémer le Saint-Esprit. Tu peux l'attrister par tes paroles, par ton comportement. Il y a des gens qui vont me demander maintenant, mais comment on attriste le Saint-Esprit? Qui veut savoir comment on attriste le Saint-Esprit? Ou bien tu ne veux pas savoir? Alléluia. Mais moi, tu as intérêt à savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu risques de l'attrister. Un jour, on te dit, bon, bye bye. Pardon, pardon, reviens. C'est là que tu vas comprendre que la vie est dure. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a rétrogradé? Quelqu'un qui était dans le Seigneur, qui a connu le Saint-Esprit, qui a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, qui a vu les dons, les miracles accomplis, et qui a laissé la main de Jésus, qui est retourné. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'en ai vu. J'en connais. Des gens qui étaient des grands évangélistes, des grands prédicateurs, des gens qui ont vu l'Esprit de Dieu se manifester. Ils ont été remplis de cet Esprit. Après, ils se sont vidés complètement. Des gens que Dieu a rejetés, qui marchent sur cette terre-là. C'est malheureux. Comment vous pouvez l'attrister? C'est très facile. On a lu le verset 30, non? Voilà. Tu remontes un peu plus loin, verset 25, et puis tu lis jusqu'à Éphésiens 5, verset 18. Tu vas savoir comment tu peux l'attrister. Je vais lire un peu. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, donc il y a le mensonge, la colère. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce que tu comprends? Tu as compris? Ça veut dire que tu peux te mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Et en quoi consiste le péché? C'est si le soleil se couche sur ta colère. Ça veut dire quoi? Tu es fâché la journée, le soir. Chérie, vraiment, ok, on va faire la paix. Je suis désolé. Avant d'aller dormir. Alléluia. Mais c'est ça, tout ça, c'est Dieu. Le Seigneur dit, mais il faut que tu pardonnes. Pierre lui dit, mais on doit pardonner combien de fois? Il dit, tu vas pardonner 7 fois, 77 fois. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour te consoler. Mais si tu es en colère, partage avec le Saint-Esprit, va adoucir ton cœur. Alléluia. Le fruit de l'Esprit, c'est la tempérance, la foi, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Tu veux t'énerver, tu veux casser, mais le Saint-Esprit te calme. Tu veux lui montrer aussi qui tu es. Ou bien qui tu étais dans le monde. Mais le Saint-Esprit te calme. Alléluia. Si tu refuses de te laisser calmer par le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu l'attristes. Est-ce que tu comprends? C'est très facile. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. Donc quand tu ne travailles pas, tu attristes le Saint-Esprit. Quand tu ne travailles pas là, tu attristes le Saint-Esprit.
Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent dribbler les gens, se coucher, dormir toute la journée. Mais en le faisant, tu attristes le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît ton potentiel. Il sait ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire, ce que tu peux accomplir. Et tu prends ça, tu mets ça sous des draps, tu dors. Le Saint-Esprit veut bouger là, il veut t'accompagner. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, il aime l'action? La Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Non, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il t'accompagne. Maintenant, tu dors. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est obligé de faire? Bon, s'il a déjà eu ses 8 heures de sommeil, tu veux dormir encore pour mettre des signes. Tu fais quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu attristes le Saint-Esprit? Tu as dit, hey, homme de Dieu, même dans dormir là, même dans dormir, tu peux attrister le Saint-Esprit. Un moment, tu dors et puis le Saint-Esprit dit, oh, lève-toi. Oh. Il y a des gens qui dorment jusqu'à le soleil, même ça finit dans leurs yeux. Mais ils veulent dormir. Ils vont tout faire pour dormir. C'est là qu'ils commencent à faire des cauchemars maintenant. Ils disent, je viens au songe. Qui n'a jamais fait cette expérience-là? Le Saint-Esprit te réveille à 5h du matin ou bien 4h pour aller prier. Tu dis non, tu vas aller dormir. Ce sommeil-là, c'est un sommeil dangereux. C'est là que tu commences à voir des trucs bizarres. Tu dis, mais tu te sens lourd bizarrement. Le Saint-Esprit, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te réveille pour aller prier, que tu refuses de prier, tu es en train de l'attrister. On n'est même encore arrivé loin. Qui déjà sait qu'il a triste le Saint-Esprit? Alléluia. Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. On continue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tu as vu? Donc les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche là. Je répète. Les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche là. Ça attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Les mauvaises paroles ne doivent pas. C'est-à-dire, il n'a pas dit que tu ne dois pas penser. C'est pas que tu ne dois pas penser. Ça peut venir. Mais si tu vas jusqu'à laisser la parole sortir de ta bouche, déjà tu attristes le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que au moment où tu veux dire, le Saint-Esprit dit, ne dis pas. Tu as envie de lui dire, toi, vilain là. Le Saint-Esprit dit, ne dis pas. Mais tu es là, tu consens jusqu'à dire, vilain là. Tu as laissé la parole, la mauvaise parole sortir. Tu vois, non? Automatiquement, l'Esprit de Dieu est attristé. Pourquoi? Parce que tu as dit de ne pas dire. Et tu l'as dit. Est-ce que tu vois comment tu peux attrister le Saint-Esprit? Tu vois comment tu peux attrister? C'est pas fini, hein? Tu peux lire encore à partir du verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour avec à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ
t'éclairera. Alléluia. Alléluia. Verset 18 aussi dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alléluia. Il dit aussi au verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux provoquer le Saint-Esprit? Ah! Psaume 106, verset 33. Les Français ont traduit aigri, mais c'est faux. Oh, toujours je le dis, mais un jour ça va se réaliser. Je vais jeter ma Bible en français. Psaume 106, verset 33. Tu vois. La Bible dit, car ils aigrirent son esprit, en parlant de l'esprit de Dieu, et il s'exprima légèrement des lèvres. Il ne détruisit point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Donc Dieu leur a dit de détruire des peuples, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait quoi? Ils ont, la Bible en français dit, ils ont aigri. Mais quand tu prends le mot en hébreu, ça veut dire, ils ont provoqué l'esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ils ont provoqué l'esprit de Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux énerver l'esprit de Dieu? Hein? Tu peux le vexer, tu peux l'énerver. Ésaïe chapitre 63 verset 10. Il y a des gens qui ont déjà énervé l'Esprit de Dieu. Vous pouvez demander pardon, hein? Ésaïe 63 verset 10. Regarde ce que la Bible dit. Toi-même, tu vas comprendre. Et les Français ne sont pas logiques dans leur traduction. La Bible dit, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Tu vois? Il dit, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Le mot qui a été traduit attristé là, ça veut dire vexé. Ils ont vexé. Ça veut dire aussi énervé. Ils ont énervé son Esprit Saint. Regardez la suite. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Ça dit qu'il faut faire attention aux nuances. Non, le mot aussi qui a été traduit, n'attristez pas le Saint-Esprit là. Ça peut vouloir dire aussi, n'énervez pas le Saint-Esprit. Alléluia. La manière dont ça a été traduit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ça peut vouloir dire aussi, n'énervez pas le Saint-Esprit. Ne le vexez pas. Parce que vous voyez, quand le Saint-Esprit est vexé, à un moment il peut réagir. Un moment, il peut réagir. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous vengez pas. Vous-même. Mais laissez agir la colère. Car Dieu dit quoi? À moi la rétribution. À moi la vengeance. Mais qui est celui qui agit actuellement sur la terre? C'est Dieu, c'est vrai. Mais c'est qui? C'est... Bon, qui agit contre Satan? Qui bloque Satan? Voilà. Donc, celui qui agit sur la terre, c'est qui? Regardez, lorsque Dieu créa la terre même, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Est-ce que Dieu a commencé à faire quelque chose sur la terre? Non. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne se mouvait pas d'abord. Ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir au-dessus de la terre que Dieu maintenant a commencé à faire des choses. Donc, quand Dieu veut accomplir quelque chose quelque part, c'est son Esprit d'abord qui va. Alléluia. Tant que l'Esprit n'est pas à l'œuvre, Dieu ne fait pas. Est-ce que tu comprends? Christ a été conçu comment? L'Esprit de Dieu va te recouvrir et tu deviendras enceinte. Alléluia. Quel est celui qui agit? C'est l'Esprit. Donc, l'Esprit, qui se venge? Quand il y a vengeance là, et puis il y a quelque chose qui se passe, quelqu'un meurt, quelqu'un tombe malade, c'est qui? C'est l'Esprit. Allez demander à Ananias et Saphira. Acte chapitre 5, verset 9.
Les gens pensaient qu'on allait, tempérer et puis commencer à descendre. Alors qu'on est en train de grimper. Alléluia. Allez demander à Ananias et Saphira. Actes chapitre 5, verset 9. Regardez ce que la Bible dit. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Donc vous voyez, on peut tenter l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tentent l'Esprit de Dieu? Hein? Allô, vous me suivez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, ok, donc, vous êtes bien là. Alléluia. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Ça veut dire quoi? Elle est morte. Qui l'a tué? Hein? Bon, d'accord. Pourquoi le Saint-Esprit l'a tué? Donc le Saint-Esprit peut te tuer. Non, celui qui peut te tuer, là, il te dit, il ne faut pas insulter, tu insultes. Il ne faut pas mentir, tu mens. Il ne faut pas voler, tu voles. Ne fais pas, tu fais. Pourtant, à n'importe quel moment, il peut faire quoi? Hein? Il peut prendre ta vie. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'énervez pas le Saint-Esprit. Toujours pas, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Moi, j'ai rencontré une fois un homme de Dieu. Il se plaignait, oh, j'ai pas de voiture. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Il dit, non, c'est pas Saint-Esprit. On dirait que Saint, c'est son prénom, et puis Esprit, là, c'est son nom de famille. J'ai dit, mais tu parles de qui, là? Il dit, non, c'est Saint-Esprit. C'est lui qui fait, j'ai pas de voiture. J'ai dit, mais toi, tu es malade. Ça, c'est vraiment dans ma tête, quoi. Je lui ai pas dit ça, mais vraiment, j'étais étonné. Comme ceux qui disent, Saint-Esprit, viens ici, Saint-Esprit, touche là, Saint-Esprit, fais ceci, Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Tu l'envoies comme un toutou. Saint-Esprit, viens, viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Hein? Tu sais, est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que seulement tu t'es arrêté une fois pour te demander, mais qui est celui? La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est celui qui est en moi? Qui est celui qui est en moi? C'est qui? Tu t'es une fois arrêté pour te demander ça? Je vous ai dit, ce n'est pas parole, le Saint-Esprit n'est pas parole de connaissance. Le Saint-Esprit n'est pas miracle, il n'est pas colombe, il n'est pas feu, il n'est pas vent. Il y a des gens, ils disent, ah, je vais dessiner le Saint-Esprit, il fait une colombe. Ou bien il fait une colombe, il pense que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Il n'est pas une colombe. Il est descendu comme une colombe. Il n'est pas une colombe. Parce que les représentations, c'est dangereux. Vous vous plaignez des catholiques parce qu'ils font des icônes, ils font des statuettes et ce genre de choses. Et puis vous, vous dessinez des oiseaux, vous dites que c'est le Saint-Esprit. Dieu dit, ne faites pas des représentations, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou sous la terre. Vous allez vous dessiner un oiseau, vous dites que c'est le Saint-Esprit. Donc lorsque maintenant vos enfants vous demandent, le Saint-Esprit c'est qui? Vous dites, voilà le Saint-Esprit. Ou bien tu dis, faut pas toucher l'oiseau, là, parce que c'est le Saint-Esprit. Qui t'a dit que c'est le Saint-Esprit? Si toi on te dit que tu es un oiseau, est-ce que ça va te plaire? Hein? Toi qui n'es qu'un homme, toi qui n'es ni omniscient, omniprésent, omnipotent, toi qui n'étais pas là à la création de la terre, toi qui n'as pas façonné l'homme, toi qui n'as pas de pouvoir de vie ou de mort sur quelqu'un, toi qui n'es qu'une poussière, et dont la durée de vie est égale à moins d'un jour devant Dieu. Ta vie là, ça dure moins d'un jour devant Dieu. Tu nais, tu grandis, tout ce qu'on est en train de faire là, ça fait moins d'un jour. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Qui parmi nous a vécu 1000 ans? Quand tu as vécu 1000 ans, tu as dit, ah, j'ai fait un jour devant Dieu. Mais ta vie là, ça passe comme ça, comme une fleur, dit le Seigneur. Si on te dit oiseau, tu vas te fâcher. Ou bien si on te dit, prends-le là. Ou bien, va faire ça, va faire tomber celui-là. Tu vas te fâcher. À combien plus forte raison? L'Esprit du Dieu vivant. Aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, nous devons reconsidérer notre position vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parmi nous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sait qu'il a attristé le Saint-Esprit. Où il est? Je n'ai pas dit de Dieu, on est beaucoup. Si tu sais que tu as attristé l'Esprit, il faut lever ta main. Alléluia. Normalement, c'est tout le monde ici. Mais celui qui a attristé le Saint-Esprit, qui ne lève pas sa main, il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Qui a provoqué l'Esprit de Dieu? Qui a aigri l'Esprit de Dieu? Qui l'a attristé? Qui l'a énervé? Qui l'a vexé? Qui l'a tenté? Ah, peut-être l'a pas encore tenté. Parce que Ananias et Saphira ont tenté l'Esprit de Dieu. Ils ont vu clair. Direct au ciel. C'est-à-dire que, eux là, ils sont allés au jugement sans transition. On dit, ah bon? Vous êtes entendu jusqu'à toi et ton mari, vous venez pour tenter l'Esprit de Dieu. Là même, oh, c'était à Pierre qui parlait. C'est-à-dire qu'ils sont venus de parler devant Pierre, mais Pierre lui-même s'est substitué. Pierre n'était plus là. Il dit, vous êtes venus me mentir. En fait, c'est pas à moi que vous avez menti, c'est à l'Esprit de Dieu que vous avez menti. Il dit, aujourd'hui même, ceux qui sont allés enterrer ton mari là, les voilà, ils sont à la porte, ils t'attendent. Sur place, elle est tombée, elle a expiré. Oh, pourquoi elle a expiré? La Bible dit quoi? La Bible n'a pas dit elle est morte. La Bible dit elle expira. Elle expira. Quand Dieu a formé l'homme et qu'il était temps maintenant pour l'homme de se lever, de marcher, de manger, de boire, tout ça là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. C'est comme ça que l'homme est devenu. Amen. Donc, ce souffle-là, quand il doit partir, comment ça se passe? Tu expires. C'est pour ça que, regardez, tous ceux qui sont morts, ils expirent toujours. L'homme meurt en expirant. Les gens qui ont fait un accident, tu les vois, ils sont là. On dit, non, reste parmi nous, non. Faut attendre un peu. Il est là, il dit, vraiment, je suis fatigué. Et puis, oh, qu'est-ce qui se passe? L'esprit s'en va. Son esprit, c'est son esprit qui s'en va. C'est son esprit qui s'en va. Pour te dire que tu n'es pas la chair que tu vois là. Tu n'es pas ce que tu vois dans le miroir. Ce n'est pas toi. Toi, tu es un esprit, tu habites dans un corps. Alléluia. Tu habites dans un corps. Le corps que tu as là, c'est ton enveloppe. C'est la machine qui te permet de marcher sur la terre. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas dormir. C'est aussi un fardeau, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est cette chair-là qui fait que tu as envie d'aller commettre l'adultère. Tu as envie d'aller pécher, tu as envie de manger, tu ne peux pas jeûner. C'est cette chair-là qui fait que quand tu es à l'église, tu es fatigué, tu as envie de dormir, tu penses à ton foutu, à ta sauce graine. Cette chair-là, tu dois pouvoir la maîtriser. Ça, tu comprends. Et l'Esprit de Dieu vient t'aider à maîtriser cette chair-là. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui vient t'aider à pouvoir maîtriser cette chair. Parce que lui seul, il lutte avec toi et il peut être plus fort que toi. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, mais qui me viendra? Qui viendra mon secours? Qui vient venir m'aider? Ce qui est bon, je le sais, je veux le faire, mais je ne peux pas le faire. Ce qui n'est pas bon, je sais que c'est bon. Je ne veux pas le faire, mais je me sens poussé à le faire. Qui va venir m'aider? Dis grâce soit rendue à Dieu. C'est Vrai. Qui m'aide, mais comment? Par le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Le jour où l'Esprit de Dieu s'en va, c'est fini pour toi. Le jour où l'Esprit de Dieu s'en va, c'est fini. Tu as besoin de lui pour grandir spirituellement. Tu as besoin de lui pour prier. Tu as besoin de lui pour développer spirituellement. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas te lever là où tu te trouves et tu vas parler au Saint-Esprit ce matin. Peut-être que tu l'as attristé. Peut-être que tu l'as énervé. Peut-être que tu l'as vexé. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, là, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as pu faire. Et tu vas prendre l'engagement de marcher devant lui, vraiment, et de ne plus l'attrister. Parce que ce message-là, c'est vraiment le Seigneur qui me l'a donné. Il m'a dit, il faut aller leur dire, parce que je commence à être fatigué maintenant. Alléluia. Tu vas parler à ton Dieu ce matin. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu ce matin. Il est là, il est disposé à t'écouter. Il est là, il est en toi. Dieu l'a managé pour qu'il vienne habiter en toi. Dieu l'a managé pour qu'il vienne habiter en toi. Dès le moment où tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. À moins qu'il y ait dans cet endroit quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors que les yeux sont fermés, les personnes sont en train de prier le Seigneur. Si tu es dans cette salle, tu es dans cet endroit, que ce soit à l'extérieur, dans la salle où je me trouve actuellement ou bien sous la bâche, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, et donc tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, je vais t'inviter maintenant à lever la main, s'il te plaît. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu veux lui donner ta vie? Lève la main, s'il te plaît.